Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Eh bien, dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons parler du potentiel hydroélectrique de la province du Kasaï central. À quand la construction du barrage de la centrale hydroélectrique Mbombo sur la rivière Louloua? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit de l'ingénieur Pierre Louabeya Mukendi. Il est directeur général de la firme PLM Ingénierie. Pierre Louabeya, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Partout où vous nous écoutez à travers la République, vous pouvez participer à cette émission en composant les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radioukapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Oukapi Service. Pierre Diassinois assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou est à la coordination. Feza Bongonda réalise ce programme de la vie au quotidien. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Oukapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Oukapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Oukapi Service. Alors, nous parlons à présent du potentiel, quel est le potentiel hydroélectrique de la province du Kasaï central. Vous savez, cette province fait face au manque de courant électrique depuis belle lurette. Les taux d'électrification est à moins de 1% selon les experts. L'absence de l'électricité stable freine énormément les développements de cette province du Kasaï central. Le manque d'électricité et l'enclavement de la ville de Kananga ont plongé la région dans une misère qui ne dit pas son nom. Après le projet de construction du barrage de Katende qui n'a jamais été réalisé jusqu'à ces jours, on parle aujourd'hui de la centrale hydroélectrique sur les chutes Mbombo, sur la rivière Louloua. Et depuis la pose de la première pierre en août 2023, les travaux ne sont pas toujours lancés. Alors, à quand les débuts des travaux au niveau de la centrale Mbombo? À quand l'électrification de la ville de Kananga? Et quel est le potentiel hydroélectrique du Kasaï central? Eh bien, toutes ces questions, nous les abordons dans cette émission avec notre invité, ingénieur Pierre Louabeya Mukendi, qui est le directeur général de la firme PLM Ingénierie. Bien, ingénieur Pierre, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Daniel.
Alors, nous parlons du potentiel électrique de la province du Kasaï central, qui n'est pas toujours électrifié à ces jours. Alors, dites-nous, quel est le potentiel de cette province, le potentiel hydroélectrique? Est-ce qu'il est possible d'avoir du courant électrique à Kananga et dans la province en général?
Oui, il est possible d'avoir le courant. Il faut juste, c'est question juste de mettre les moyens et les ressources pour qu'on puisse être capable d'électrifier la ville de Kananga et la province. Mais le potentiel hydroélectrique, il est immense. Les gens, ils parlent beaucoup plus de chute Mbombo ou de chute Katende, mais il y a plein de potentiels un peu partout autour de Kananga. On pourra en parler un peu plus tard. Il y a la rivière Miao qui a beaucoup de sites, hein, qui regorgent de potentiel hydroélectrique. Il y a des petites rivières comme Chibashi aussi qui peuvent produire de l'électricité.
Je rappelle que vous êtes ingénieur et titulaire d'une maîtrise en analyse et conception des structures de l'École Polytechnique de l'Université de Montréal. Mmh. Et vous disposez d'une forte expérience de 22 ans dans le rouage de la construction. Alors, c'est vous qui vous faites les études, d'ailleurs, actuellement, sur Mbombo. Alors, parlez-nous un peu de cette aventure Mbombo. Comment est-ce qu'elle a commencé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Ben, Mbombo, moi, je suis sur Mbombo comme ingénieur, comme consultant. Donc, on parle de la firme PLM qui a eu mandat du BCECO pour réaliser les études des faisabilités. Et en même temps aussi de préparer tous les documents d'appel d'offres pour qu'à la fin des études, qu'on puisse engager un entrepreneur qui pourra construire le barrage hydroélectrique. Alors, en ce moment, notre mandat est de commencer d'abord par donner les potentiels de ces sites-là. Mmh. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ces moments. On a quand même une idée aujourd'hui beaucoup plus claire du potentiel des sites. Le gros problème qu'on est confronté actuellement, comme un peu toutes les rivières au Congo, il manque beaucoup de données. Alors quand tu arrives dans un tel projet, il faut commencer par aller chercher des données qui vont servir comme des intrants à tout ce qu'on peut faire comme travail. Entre autres, on peut parler du débit de la rivière, donc c'est combien d'eau on peut retrouver dans cette rivière-là. Et ça, c'est des études qui peuvent se faire quasiment sur 10 ans. Aujourd'hui, avec des moyens que nous disposons, il y a moyen de raccourcir ces temps-là, mais c'est un minimum de 1 an carrément qu'il faut aller prendre des mesures dans la rivière, quasiment à chaque jour. Donc pour ça, nous avons installé plusieurs capteurs à plusieurs endroits sur cette rivière, en plus de certaines mesures ponctuelles que nous allons chercher à chaque semaine dans la rivière. Et ces mesures-là sont aussi mises ensemble avec certaines études qui sont statistiques, qui sont faites afin d'éviter d'avoir à vraiment relever des données pendant 10, 15, 20 ans sur la rivière. Donc ça, c'est vraiment des difficultés. Et à part ça, nous avons aussi fait beaucoup de relevés au niveau de la topo, donc topographie du site. Toutes les études de sol, c'est un peu à ce niveau-là que nous sommes rendus dans le projet actuel. On est beaucoup plus dans la campagne d'acquisition et pour être en mesure de quantifier le potentiel du site. C'est une fois que nous terminons cette campagne d'acquisition que là nous commençons la conception en soi. Donc c'est comme un travail au bureau où on essaie de rassembler toute cette information-là pour faire ressortir la capacité réelle de ces chutes-là. Mmh. Et une fois que nous avons le potentiel, là nous pouvons procéder maintenant à la réalisation des documents d'appel d'offres que nous pourrons remettre à l'entrepreneur qui sera choisi pour construire la centrale.
Et à ce jour, les études sont suffisamment avancées?
Oui, moi je parlerai, on dirait environ, on est autour de 60% de l'avancement du projet. Ce qui reste, c'est pas grand. Ce qui était très difficile, c'était l'acquisition des données sur le terrain. Donc mmh. tout ce qu'on a, une des grandes la partie qui est très importante qui reste par exemple, c'est la géotechnique que nous entamons dès la fin de ces mois ici. Ça c'est au niveau des acquisitions de données sur le terrain. Donc là on va aller pour aller carotter le terrain, prendre de mesures pour savoir les sols, comment ils se comportent. C'est ça la géotechnique. Donc en termes d'acquisition des données, c'est la grosse partie qui reste à faire.
On a même appris certains termes, la bathymétrie.
Oui, la bathymétrie, c'est la campagne que nous venons de terminer.
De terminer.
Ouais, donc elle, on l'a terminée. Donc elle aussi, c'était aussi une grosse partie de l'acquisition qui devait être faite.
Donc ça sur la rivière Loulou.
Loulou a toujours. Donc il a fallu qu'on attende un bateau qu'on a fait venir expressement de la France. Aussitôt qu'on l'avait, on a pu bien travailler sur carrément une étendue de plus que 4 kilomètres de relevé du fond de la rivière. Donc on était capable d'aller chercher tout ce qu'il y a au fond de la rivière, faire des études sédimentologiques, avoir toute la bathymétrie, le fond de la rivière. Mmh. Donc c'est une fois que toutes ces études, les acquisitions là, une fois qu'on les a, la partie bureau, elle sera beaucoup plus simple parce qu'on est dans des conditions pour travailler beaucoup plus facilement
et aller. On a beaucoup plus de données.
Voilà, on peut aller beaucoup plus rapidement que quand on est sur le terrain. C'est difficile, les conditions de travail, c'est très difficile au fait.
Mmh. Cette centrale là de Mbombo, à quelle capacité elle peut produire, combien de mégawatts?
La capacité actuellement, comme je vous ai dit, on est pendant la période des études.
Mmh. Des estimations.
C'est ça. On parle d'un potentiel qui varie entre 10 mégawatts à 40 mégawatts, voire plus.
Mais ça peut couvrir tout le besoin d'énergie de la ville de Kananga, de la province.
Non, on peut pas. Les besoins en énergie, c'est le besoin, il s'écrée, hein. Donc le besoin, il va toujours. Il va croître. Mais répondre aux besoins actuels, oui. On pourra répondre aux besoins actuels dans cette fourchette-là du potentiel entre 10 et 45 mégawatts.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons du potentiel hydroélectrique de la province du Kasaï central. Nous avons en ligne Ismaël Mumpoy de Lumbashi, Justin Kalabia aussi est à Lumbashi, Roger Marcel est à Kinshasa. Vous voulez participer, composez le 099-706-9941.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité, j'ai oublié son nom.
Bonjour, c'est Monsieur Pierre
Loabé Amoukindi. Quelle est votre question, Ismaël?
C'est mon homo.
Ah, d'accord.
Je pense que j'ai compris tout ce qu'il a. J'ai compris tout ce qu'il a dit de cette province et de cette ville. Mais par rapport à tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il peut résumer en termes concrets par rapport à cette potentialité et par rapport au temps que prend tous les projets qui est initié au Kasaï central? Mais comme cette ville a une difficulté, je parle en termes de Kananga comme ville, comme cette ville-là a une difficulté du courant. Mais monsieur Pierre, regardez un peu à Tchikaji, 11 km de la ville de Kananga. Mais il y a un courant qui peut suffire pour toute la ville. Mais pourquoi avant de terminer chute Mbombo, chute Katende, chute tel, négocier d'abord avec cette société, prendre le courant de Tchikaji, de servir la ville de Kananga, plutôt que de nous prendre un peu de théorie, de papier, de mathématiques et de consorts là. Mais en termes de tout ce qui se passe aussi pour la province du Kasaï central, et en particulier la ville de Kananga, ça ne vous fait pas honte de prendre que d'argent, de théorie, nous mettre et nous présenter aux gens? Mais si s'agissait de chute Katende, j'ai posté un petit message sur page Facebook. C'est depuis nos ancêtres que nous avons entendu parler de chute Katende, de tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le premier gouverneur du Kasaï central, il s'appelle Tshongotshi Binkubulawantum. Je pense à ce terme-là. Mais quel en était le malheur qui lui était arrivé quand il a dit au président de dire qu'il avait fallu assez qu'on prenne le courant de Tchikaji venir là? Mais c'est là maintenant, que le bilan pouvez-vous nous donner avec votre société? Ça peut prendre combien de temps, combien d'années, combien de mois? Et si cela ne sera pas réalisé et que Kasaï central ou Kananga n'aura pas électrifié, mais la population en général de la RDC et du Kasaï central va vous voir comment? Parce que tous ceux qui vous ont précédé, ils n'ont rien fait de concret.
Merci.
Mais qu'est-ce qui nous rassure que vous-même là, vous pouvez faire quelque chose?
Merci.
Je vous dis encore, j'ai une parcelle derrière le parquet du côté SNEL là. Les bruits que vous faites avec la SNEL là, bon, ça gêne. C'est compliqué là. Mais vous ne pouvez pas vous faire quand même un grand Renault pourvu que vous ayez un courant. Parce que chez vous, Vos merci. Enfants sont là.
Merci,
vous
Ismaël.
Vous avez de Véki, de Lix. Mais peu après le contrat, le mandat terminé, vous allez partir. Et deux, c'est
et puis, quand on ne sera toujours pas électrifié.
Parce que qui tue cette province-là n'est qu'une autre chose que l'électrification de cette ville-là. Merci beaucoup, Inch'Allah.
Merci. Justin Kalabia de Lumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour aussi à notre invité, c'est de Bounia.
Vous êtes plutôt à Bounia et non Lumbashi, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Justin?
Oui, monsieur Jordi, merci beaucoup en tout cas de m'avoir associé dans cette très bonne émission. Moi, je dis souvent, hein, pour permettre à cette province du Kasaï en général et celle de Kasaï centrale en particulier, l'accès, bien évidemment, à l'électricité, il faut que l'État, monsieur Jordi, prenne ses responsabilités à favoriser les entrepreneurs, à favoriser, monsieur Jordi, l'entrepreneuriat. Tous les secteurs, vous savez, monsieur Jordi, mais aussi en sensibilisant les jeunes Kasaïens. Parce que vous êtes sans ignorer, monsieur Jordi, que vous étiez, quand vous étiez en mission, en tout cas à Kananga, parce que moi je vous suivais en intégralité, monsieur Jordi, oui. Je pense que les jeunes Kasaïens aiment beaucoup plus la politique et pensent que la vie est seulement aller au Parlement, ou soit être un magistrat, ou être un avocat, c'est seulement qu'ils serviront, c'est seulement que comme ça il faut avoir l'argent. Alors que, il faut faire aussi l'entrepreneuriat. Vous voyez, moi je prends souvent l'exemple de la ville de Goma. La ville de Goma a une grande partie d'électrique. C'est seulement que ce sont les investisseurs, ce sont les jeunes commerçants qui se sont réunis en mettant leurs moyens. Alors, moi je disais que l'État aussi doit laisser en tout cas aux jeunes gens une priorité afin qu'ils se retrouvent lorsqu'ils auront maintenant, il y a des commerçants qui vont maintenant se plonger maintenant dans les secteurs. Monsieur Jordi, dans ces secteurs, et vous allez voir que la ville du Kasaï central aura en tout cas en général une grande partie d'électricité. Mais aussi, monsieur Jordi, vous voyez que il y a la chute des Katendi au Kasaï central. Monsieur Jordi, moi je me demande, nous avons Inga 1, Inga 2, maintenant nous on propose maintenant Inga 3. Maintenant, toutes les sociétés là de la SNEL, elles font quoi? Et lorsque l'argent, les paisibles citoyens payent des impôts et taxes, monsieur Jordi. Mais l'argent des paisibles citoyens aussi vaut où, monsieur Jordi?
Merci.
Alors, c'est ce qui nous inquiète.
Merci beaucoup, Justin. Merci, Kalabia, depuis Bounia. On va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour, Roger.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour à notre invité. Bonjour à mon ami Justin Kalabia.
Quelle est votre question, rapidement?
Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour le sujet du jour. Et je félicite aussi la radio Okapi pour tous les efforts fournis. Je pense que dernièrement, vous étiez à Kananga. Vous avez quand même parlé sur le même sujet-là. Mmh. Je pense que la ville de Kananga, c'est la ville où j'ai eu quand même le temps de grandir. Jusqu'alors, il n'y a pas toujours l'évolution. À mon époque, on parlait de chute Katende. Après moi, il y a eu chute Mbombo. Il y a des chutes là qui se passent. Mais malgré tous les efforts fournis, Kananga n'a pas toujours de l'électricité. Mais il y a quand même, à mon époque, il y avait quand même des individus qui avaient quand même avec des groupes, avec des moteurs qui distribuaient quand même des courants partout là. Et je pense que si l'État congolais quand même n'arrive pas à faire quelque chose, que les individus se donnent pour que la vie de Kananga soit éclairée. C'est aujourd'hui, si, selon les informations, ce qui se passe à Kananga, c'est terrible. Comment on peut être dans une ville où on fait des promesses à tout moment, à un chef de l'État qui arrive, il fait toujours des promesses, mais il n'y a pas toujours des choses qui se fait au niveau de la SNEL, c'est par terre, partout. Je pense quand même si on puisse avoir quand même des dirigeants, qui pourraient avoir quand même l'envie que la ville de Kananga puisse avoir comme de l'électricité, parce que tout aujourd'hui c'est cher. Si vous allez partout, moi, quand j'étais à Kananga, j'ai payé 7 kilomètres pour aller suivre le match.
7 kilomètres pour aller suivre le match.
Oui, j'ai quitté quand vous êtes dans la commune d'Endesha. Il faut aller même jusque dans la commune de Kananga, ou faire quelques kilomètres pour suivre seulement le match.
Ah, d'accord.
Pour charger seulement un téléphone.
Pour charger le téléphone, oui, parce que le courant n'est pas permanent. Merci, Roger.
Le courant n'est pas permanent.
Oui.
On avait quand même les temps, quand même, les individus. Quand on prenait quand même le courant chez les individus, malgré tous les efforts fournis, même le président de la République a fait des descentes sur le terrain. mais il n'y a pas toujours quelque chose.
Merci. L'ingénieur va répondre tout à l'heure. Merci Roger. On va donner la parole à Emmanuel Singh avec Kinshasa. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bien, Emmanuel n'est pas là. Bien, on va donner la parole à notre invité, ingénieur Pierre Leveilla. Vous avez suivi toutes les préoccupations. La première, quelqu'un nous dit qu'au niveau de Tshikaji, voilà, c'est Ismaël de Lubumbashi, il dit à Tshikaji, il y a de l'électricité. Pourquoi on ne peut pas utiliser cette électricité et puis électrifier la ville de Kananga?
Je vais répondre à cette question, mais je vais commencer par la première préoccupation d'Ismaël, hein, il parlait beaucoup plus du temps pour finir le projet. Mmh. Je vais répondre à sa question en deux volets. Disons, je vais diviser ces temps-là en deux temps. Il faut que les gens comprennent que quand on parle d'un projet, il y a deux phases. Il y a la phase étude et il y a la phase exécution. La construction ne peut pas commencer tant que les études ne sont pas terminées. Mmh. Et en ce moment, nous sommes en train de finaliser les études. Donc, il faudrait nous donner ces temps-là pour finaliser les études.
Et vous le faites avec vos propres moyens.
Oui. Et nous avons un contrat, nous allons être payés. Je crois que tout le monde sait qu'on était en transition de gouvernement.
Mmh. Et alors, vous faites un préfinancement.
Voilà, donc c'est ça. Mmh. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent que nous sommes dans la phase études et que ces études, nous allons les terminer bientôt. Et une fois que les études sont terminées, c'est les documents que nous aurons rassemblés qui seront remis à l'entrepreneur pour exécuter le travaux. Donc, tant qu'on n'a pas fini ces documents-là, l'exécution de travaux ne peut pas commencer. Pour la deuxième question, qui est des Tshikaji, je n'ai pas exactement la capacité de la centrale Tshikaji, mais je peux. Une chose est sûre, j'ai déjà vu la rivière, hein, donc en passant par là, c'est une petite rivière et je crois que c'est une centrale qui ne peut pas fournir
beaucoup de mégawatts,
c'est ça, beaucoup d'énergie
pour électrifier toute la ville de Kananga,
pour alimenter toute la ville de Kananga. Donc sinon ça serait fait. On parle des demandes qui sont au-delà des 17 mégawatts et je pense pas qu'on peut arriver à faire même un 2 mégawatts avec cette c'est une petite rivière, hein. Donc c'est vraiment de l'électricité pour cette ville là mais quand il soulève cette question, ça revient un peu à la question de dire que c'est toujours mieux de commencer, d'avoir des petits projets qui peuvent être exécutés rapidement. Donc ça peut être des petites centrales solaires, ça peut être des micro-centrales comme cette centrale-là de Tshikaji dont monsieur est en train de parler. Mmh. Donc moi, j'en profite pour glisser un mot que nous, on a des études sur la rivière Tshibashi, où il y a un site où on a déjà fini toutes les études. On attend que le financement. Il y a aussi Miao, dont il y a aussi trois sites avec du potentiel là-bas, où nous avons des études déjà réalisées.
Déjà complètement
terminées.
Et validées.
Et c'est des études qu'on a aussi déposées dans plusieurs agences ici au Congo.
Mais pourquoi on reste sur Mbombo alors qu'il y a déjà des études terminées et validées?
Ben je ne sais pas, je peux pas te répondre. Ce qui est important, l'énergie, on en a besoin. Donc on peut en développer autant de projets hydroélectriques tant que c'est comme j'ai dit, on a déjà des études qui sont prêtes. Si ces études-là peuvent être financé pour qu'on puisse construire, mais pendant ce temps, on peut continuer à faire des études
au niveau des Mbombo
calmement, sans stress, voilà. Et que les choses se passent correctement. Mmh. Alors, une fois que les études sont finies, on aura des études finies sur Mbombo et on ira aussi chercher du financement calmement. Mbombo va aussi se construire. Mmh. L'énergie, on a toujours besoin de l'énergie.
Et le potentiel est énorme.
Et il est énorme. Donc c'est moi la question que Ismaël, quand il parle des Tshikaji, je comprends un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est c'est aussi de fois il y a une courbe d'apprentissage. Hein. On dit qu'Atende n'a pas été, mais c'est parce que peut-être on est allé trop gros, trop vite.
Peut-être qu'Atende c'était combien
On parle de 64
mégawatts,
mais il faut faire attention. Qu'Atende est arrêté, c'est pas que il est arrêté à cause de beaucoup de problèmes
politiques, tout ça.
Pas nécessairement, je ne connais pas nécessairement le rouage du projet, mais ce qui est sûr, moi je suis allé sur les sites, je visitais, tout est à l'abandon quasiment.
Il n'y a plus rien là-bas.
Tout est à l'abandon. Mmh. Tout est à l'abandon. D'ailleurs, les travaux qui ont été réalisés, tu vas trouver qu'il y a des digues qui ont déjà cédé, il y a beaucoup, beaucoup. Mais ce que je veux dire par là est que peut-être qu'on est allé trop vite, on n'a pas eu cette courbe d'apprentissage où on commence par des micro-centrales, en créer, de financer des
micro-centrales, voilà.
Et ça permet d'apprendre et on augmente la difficulté au fur et à mesure, que ça soit au niveau de la gestion, que ça soit au niveau de l'exploitation de la centrale elle-même.
Bien, donc on retient qu'il y a déjà des études finies et validées sur Miaou et Chibashi. Donc on peut commencer par là. Et
oui, je peux dire qu'il y a des études qui ont été commandées par un partenaire, une firme qui s'appelle Flow. Sur Chibashi et Miaou.
Bien, on va accueillir Omar Kigalo de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Merci du verbe que vous m'adjugez à nouveau. Dès l'entame de mon propos, je tiens à rappeler, et c'est de notoriété, que l'accès à l'électricité est l'un des indicateurs de développement. C'est malheureux qu'en plein XXIe siècle, qu'on ait la majorité des Congolais inaccessibles au courant électrique. C'est vraiment incondescendant pour un pays qui a un potentiel hydraulique énorme. Ça doit interpeller. Avant tout, je félicite les initiateurs du projet, car dans un pays où l'irresponsabilité gouvernementale est accrue, il faut encourager l'initiative privée. C'est ça, félicitations pour ce projet. Alors, ma première question, monsieur l'invité, est celle de savoir. Ces projets ne datent pas de ce jour. On a connu beaucoup de projets. D'ailleurs, je vous informe, pour davantage à rendre accessible le courant électrique à tout le monde, en 2015, le Parlement a voté une loi qui a libéralisé le secteur de l'électricité. Plusieurs projets privés ont été initiés, n'ont jamais abouti. D'ailleurs, c'est la province de l'actuel chef de l'État. Je vois mal qu'il ne puisse pas s'impliquer, mais il y a eu beaucoup de regrets. Lui-même a dit, les collaborateurs ne m'ont pas aidé. La meilleure façon d'aborder un problème, c'est bien étudier les causes, car l'efficacité de résultats en dépend. D'après vous, quelles sont les réelles causes qui ont fait que cette situation chaotique perdure? Vous n'êtes pas les premiers, on a suivi beaucoup de projets avec la Banque mondiale et BCECO qui n'ont jamais abouti, mais Kassai est dans le noir total. Quelles sont les causes réelles avant que vous ne puissiez vous engager qui ont fait que cette situation perdure? Deuxième question. Le projet est bon. Comme l'a dit un des prédécesseurs, ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions qui deviendront des réalisations s'il y a la volonté et les moyens. Quels sont les mécanismes mis en place pour concrétiser ces projets? Moi, je félicite, j'applaudis. Mais on connaît le Congo. On est fort dans les discours, mais l'action n'est pas forcément efficace. Quels sont les mécanismes que vous avez pris pour que ces projets aboutissent et se concrétisent? Troisième question. La loi de 2015 sur l'électricité oblige à tout expert, même privé, d'associer les ministères de tutelle dans toute recherche. Est-ce que dans vos études, dans vos enquêtes, c'est vrai que c'est indépendant, vous êtes privé, avez-vous respecté cette disposition légale qui vous oblige d'associer les experts du ministère compétent? Je ne sais pas si on l'appelle toujours ministère de l'énergie ou des réseaux hydrauliques, parce que selon la loi, un tel projet ne peut être efficace que si l'autorité donne son visa. Et dernière question, je finis par là. Cette même loi oblige à l'État congolais, parce que c'est l'État qui est le premier responsable, qui doit garantir les courants. Même si les privés interviennent, même si les privés investissent, l'État a le devoir moral et politique d'assister. La loi de 2015 oblige à l'État d'accompagner techniquement et financièrement toute initiative tendant à implanter les courants électriques. Est-ce que vous avez bénéficié de ce soutien, tant technique que financier? Voilà mes préoccupations, M. Jody. Une fois de plus, sincères félicitations à l'invité. C'est ça la vraie intelligence. Ce n'est pas parler français ou anglais ou allemand. C'est utiliser son cerveau pour apporter des solutions à ta communauté. Et pour cela, je les applaudis. Que Dieu les accompagne.
Bien, merci. Ingénieur Lobé, à vous la parole.
J'en ai manqué quelques questions, surtout à la fin. Je vais tenter de répondre. La première question, il parle des causes qui ont fait que certains projets ont échoué ou ne sont
beaucoup
pas
arrivés. Beaucoup de discours, plus de réalisations.
Je n'ai pas l'historique, donc je ne peux pas, statuer sur des choses que je ne connais pas. Mais une chose que je sais, parce que j'ai quand même eu une expérience de plus que 15 ans avec des projets à l'international et au niveau de financement aussi, ce qui tue le projet souvent, c'est le manque des études. C'est le manque des études. En général, les gens vont annoncer peut-être des projets, mais ces projets n'ont jamais été étudiés. Donc ça, c'est une chose.
On s'en tient aux effets d'annonce, mais tant qu'il n'y a pas des études, des faisabilités.
C'est ça. Et ça, je suis en train de parler en général. Je ne parle pas sur un projet particulier parce que dans sa question, il n'a pas visé un projet. Et moi-même, à ma connaissance, j'en connais pas vraiment pourquoi certains projets n'ont pas marché. Mais d'un point de vue général, le projet, ils vont pas marcher à cause de ça. Les études ne sont pas bien faites ou elles sont mal faites. Donc du coup, le projet ne peut pas marcher. D'un autre côté, c'est un manque de financement. Souvent, le projet va souffrir de manque de financement. On va annoncer les projets, mais on n'a pas encore le financement. Alors, ça revient encore aux études. Un financier qui regarde une étude qui est mal montée, il ne la finance pas. Alors, la plupart des études qui arrivent au niveau de banque ne sont pas bancables, comme on dit.
Les projets bancables, oui.
Ne sont pas bancables.
Et là, on peut pas financer. Hein.
Voilà. Alors, souvent, c'est ce qui arrive, ou deux fois, ce que j'ai vu, c'est commençons avec ce qu'on a.
Et puis on verra après.
A la foi que durant le projet,
on aura des moyens,
les moyens vont arriver. Donc c'est un peu un ensemble de tout ça qui fait que dans notre pays il y a ce problème là. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours finir les études avant tout. Il faut finir les études parce que c'est durant les études, on est même capable d'étudier toutes ces possibilités-là, que ça soit au niveau du financement, le risque sur le projet lui-même. Tu sais, c'est pas juste d'étudier comment la centrale va être construite ou exploitée, mais c'est tous les risques liés aussi au projet. Mais tout ça est fait durant les études. Donc moi, je dirais que c'est vraiment ces trois choses-là que je vois qui peuvent être améliorées chez nous ici au pays quand on doit
alors,
mettre.
Alors, ingénieur Lobéa, vous avez travaillé sur de gros projets, par exemple l'échangeur turco
à Montréal,
Clé Ottawa, à Bogota aussi, le pont
Champlain, le métro de Bogota,
le métro. Parlez-nous un peu de tous ces projets. Comment vous avez pu travailler et puis les réaliser?
Ben, c'est des gros projets. On parle de projets sur lesquels j'avais des équipes comme sur Turco. À un moment donné, j'avais des équipes de plus de 700 ingénieurs, un peu répartis partout dans le monde. Et sur tous ces projets-là, je peux vous dire une chose, c'est tous des projets qui étaient du PPP. Tout le gros projet en général.
Partenariat public-privé.
Voilà. C'est des PPP et c'est des gros consortiums. Et la dynamique, elle est un peu différente. Donc, les financiers, il est en même temps dans un consortium qui associe à un entrepreneur. Les gouvernements aussi, il est là, il se partage les risques. Tout le monde participe au fait dans le projet. Mais avant que tout ça puisse se réaliser, il y a toujours le gouvernement ou le maître de l'ouvrage qui prend le temps de préparer déjà les études en amont, afin de faire appel. Quand il invite des gens autour de la table, c'est parce qu'il trouve déjà que tout est déjà prêt. Tu sais, on n'a qu'à regarder. Ah, ok,
tout. Il y a déjà des études validées. Tout est fini,
Est fini. Mais c'est ça le gros. C'est pour ça que j'insiste sur le fait. C'est très important de finir, de faire les études sans stress. Il faut pas que ça soit, on dirait, on est en train de bousculer les gens à finir les études vite. Non, on ne peut pas faire ça parce que c'est ça la clé de la réussite d'un projet. Parce que, dis-toi que les études peuvent arriver à la fin et dire, par exemple, qu'il ne faut pas construire un barrage sur les chutes de bombes. les études peuvent arriver à cette conclusion.
À cette conclusion-là.
Je ne crois pas que c'est là que nous sommes en train d'aller, mais c'est pour te dire que c'est ça le but. Pourquoi on doit toujours laisser les études finir. Et moi, dans tout ce que j'ai eu comme expérience de projet à travers le monde, c'est les études bien faites. On a sur Bogota, par exemple, le métro de Bogota, ça a pris 2 ans. 2 ans des études pour faire le métro de Bogota. Sur l'échangeur turco, à Montréal, c'est le plus grand échangeur en Amérique du Nord. Mmh. Juste la préparation du projet. Le projet lui-même, la construction, a pris 3 ans. OK? Mais les études, la préparation, 5 ans.
5 ans.
5 ans. Et quand on a commencé l'exécution, il n'y avait pas place à l'erreur. Tout était calculé millimétré. Chaque chose était millimétré. Pourquoi? Parce que en amont, les études ont été faites correctement. Mieux vaut prendre un peu plus de temps pour faire les études correctement. Ça va aider à réduire même le travail et ça garantit la réussite.
La réussite du projet. Patrick Odia nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jodine Gassama. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Quelle est votre question, Patrick?
Au vu de l'expérience qu'a démontré le VIT tout à l'heure, je voudrais y aller par quelques questions également. Parce qu'on parle de ressources hydroélectriques dans l'espace Kankata et son impact. Je me dis, autant d'années, la chute Katende. Est-ce que les études ont été bien menées? Est-ce qu'il y a-t-il la possibilité que si ces études ont été menées, qu'il n'y a pas adaptabilité par rapport aux circonstances modernes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a-t-il le moyen de recommencer les études afin de profiter de la chute Katende, que la chute Katende puisse profiter à l'espace Kankata? Et ça, c'est la première question. Deuxième question également. Comment expliquer le fait que les courants passent du Congo central vers Kankatanga alors que les habitants de l'espace Kankata, ils n'ont pas les courants? Ça, c'est la première question. La deuxième question également. Je voudrais également interpeller les gouvernements. Est-ce que c'est question de leadership, de gouvernance, est-ce manque de compétences? Parce qu'à l'entendre parler, il a vraiment une expérience également et des compétences dans le domaine. Mais qu'est-ce faut-il faire également pour que l'espace Kankata puisse bénéficier de toutes ces ressources hydroélectriques également? Et lorsqu'on parle d'hydroélectrique, on ne parle pas des petits courants allumés, c'est pas moi, réchauffer l'eau et tout ça. Non, non. On parle du courant ayant une capacité industrielle également pouvant permettre des industries de s'installer dans l'espace. Et cela permettrait le désenclavement dans l'espace Kankata également. Je pense que lorsqu'il prendra parole, il pourrait nous expliquer par rapport à son expérience également qu'est-ce qui bloquerait pour que la chute Kankata ne puisse pas être profitable jusqu'à ses jours effectifs dans l'espace Kankata. Est-ce qu'il faut-il reprendre les études? Et s'il faudrait reprendre les études, combien de temps? Et l'exécution en soi pourrait prendre également
oui,
combien de temps?
Oui, et Patrick, en passant, l'invité a annoncé qu'il y a déjà des études terminées et validées sur d'autres sites, Miaou et puis Chibashi. Et il va revenir là-dessus tout à l'heure. Richard Kazadi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, cher journaliste, je salue en passant l'invité.
On vous écoute, Richard.
Bonjour.
Merci. J'avais un petit souci, c'est par rapport à l'intervention de votre invité qui est sur les plateaux. Il a parlé de deux phases dans l'exécution d'un projet. Il a dit premièrement, il faut d'abord mener des études et ensuite passer à la phase d'exécution. Avec ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant certains sites dont les études ont été déjà menées du côté Miaou, je crois, ça doit être dans les territoires de Kazumba, ainsi de suite.
C'est bien ça.
Pourquoi ne pas directement financer ces projets-là dont les études sont déjà avancées et terminées, au lieu de rester s'accroupir sur un projet dont les études n'ont pas encore abouti, et dont les politiciens, je peux citer l'ancien gouverneur qui venait de partir, a même posé la première pierre pour dire que les travaux de construction de la chute Mbombo ont commencé au moment où les études n'ont pas été faites. Je ne sais pas comprendre ces paradoxes-là. Pourquoi ne pas financer les sites dont les études sont déjà terminés au lieu de rester s'éterniser sur des sites encore sous étude et ça reste un peu flou. Et la deuxième petite inquiétude, je voulais aussi profiter pour demander à l'invité qui a déjà exécuté beaucoup de grands projets comme il venait de le dire du côté Canada ainsi de suite, est-ce que normalement quand un projet l'étude de faisabilité n'a pas encore fini, est-ce qu'il faut nourrir à la population l'espoir que vous voulez construire ou vous voulez exécuter ce projet-là tant que les études n'ont pas encore fini? Normalement, il fallait commencer par les études. Vous pouvez faire ces études-là, d'ailleurs, dans un silence. Et la population n'est même pas au courant. Vous prenez tout le temps que vous voulez, vous menez les études. Une fois les études terminées, la première pierre qu'on doit poser, on doit la poser directement pour l'exécution de projet. Et c'est à ce moment-là qu'on va même parler du chronogramme d'activité. Le projet a 18 mois, prenons l'exemple de Chitambombo. Dans les 18 mois, nous supposons que la première pierre qui a été posée, c'est le début même des travaux, et au bout des 18 mois, le projet doit terminer et la population ou la ville doit être électrifiée. Et quand vous parlez des 18 mois, tantôt, ce sont des contrats de route qu'on va signer pour acheminer le matériel vers les sites où le barrage doit être érigé. Tantôt, ce sont des études de faisabilité. Et quand est-ce que les vraies activités, donc de la construction de la chute, doivent commencer? On peut essayer de nous aider à élaguer ces malentendus, à faire comprendre à la population qu'il faut normalement parler de l'exécution du projet quand les travaux, donc les études de faisabilité sont complètement terminées. Il faut pas mélanger les choses et commencer à embrouiller les gens parce que pour le moment, nous, on commence déjà à nourrir l'espoir que nous allons avoir du courant. Et maintenant, si les études de faisabilité qui sont en cours d'exécution arrivent à la conclusion selon laquelle le site n'est pas approprié pour la construction du barrage.
Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là?
Qu'est-ce qu'on va faire à ce point-là? Quelle sera la suite? Quelle sera l'avenir pour cette province qui a été délaissée il y a des années?
Merci Richard Kazadi.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée Richard. Ingénieur Pierre Loabé, à vous la parole.
Ça fait beaucoup de questions. Je vais commencer avec... Avant, Richard, il y avait...
Il y avait Maître Omar qui a demandé si vous êtes accompagné par le ministère, je crois, de l'énergie. Est-ce que vous travaillez avec les structures de l'État?
Ouais, non, on travaille avec les structures de l'État qui, eux, sont accompagnés par le ministère des tutelles. Hein. Mais moi, par exemple, mon client direct, dans le cas de ma firme PLM Engineering... le client direct c'est le BCECO et après c'est le BCECO c'est lui le maître d'œuvre délégué, donc c'est lui qui normalement fait les autres démarches. Pour revenir à sa question sur KTND, je suis pas sur le projet, mais je sais que KTND il y a eu arrêt, et quand il y a arrêt des travaux, il faut absolument aller faire un audit. Parce que ça ne veut pas dire quand.
Est-ce qu'il y a eu des études de faisabilité?
Oui, il y a des études. J'ai eu même. Non. Les études ont été faites. J'ai eu l'occasion. Je peux même vous garantir. Les études ont été faites par une grande firme, Coe Bélier, je crois. C'est une grande firme qui ne fait que de l'hydroélectricité. J'ai eu l'occasion de lire ces études-là, elles sont très bien faites. Mais je pense que le projet a peut-être souffert d'autres choses que les études.
D'autres dimensions qu'on ne maîtrise pas.
C'est d'autres dimensions que nous ne maîtrisons pas. Mais des dernières nouvelles que j'ai aussi appris comme monsieur tout le monde, je crois qu'il y a une enveloppe budgétaire qui est en train d'être ramenée dans ce projet-là, et c'est un projet qui va reprendre, mais ça c'est à long terme, donc c'est pas quelque chose qu'on peut espérer voir dans les 10 prochaines années par exemple. Mais le besoin en énergie, comme j'ai dit tantôt, on en a, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'énergie, on en a, ne serait-ce que pour, tu sais, à Kananga on parle des minéraux, on parle du nickel, on parle On parle même juste de l'agriculture, de tout ça, on a besoin de l'électricité pour industrialiser la province. Donc, le besoin en énergie, on en a toujours. Donc, KTND, je crois que ça va reprendre, mais ce n'est pas, n'espérez pas voir le travaux être réalisé ou reprendre pour bientôt. Pour la question des Inga, encore, je vais te répondre comme néophyte, quelqu'un qui a eu une information. C'est la ligne des Inga qui a été montée pour qu'elle ne puisse pas être soutirée quelque part sur le chemin. Donc, elle part, je crois, des Inga jusqu'au Katanga directement. Mais il y a des projets actuellement, des soutirages de cette ligne-là à partir de Chimbulu. Donc, s'ils s'informent beaucoup plus au niveau du ministère de l'Énergie ou des agences spécialisées là-dedans, il aura beaucoup plus d'informations. Sa question concernant...
Il dit, mais il y a déjà des études terminées et validées sur d'autres sites, Miaouch et Chibashi. Alors, pourquoi rester seulement sur Mbombo alors qu'on peut déjà financer les autres projets?
Mais c'est ça, c'est même ça ce que moi j'essaie de dire et d'éclamer à chaque fois. Il y a des études qui sont déjà faites, comme je vous dis. Flo a initié des études sur Miao qui sont faites et finies. Flo a initié des études sur Chibashi. Ces études sont faites et finies. Donc c'est important que aujourd'hui les élus qui entendent, hein, parce qu'ils me donnaient, il y avait aussi une autre question qui disait comment faire pour essayer de faire avancer tout ça. Ben, nos élus doivent s'impliquer là-dedans. Ils peuvent essayer de contacter Flo, poser des questions. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi on ne finance pas ces études? Parce que ces études ont été déposées à plusieurs endroits. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Et à ce moment-là, on peut au moins aller financer des barrages aux endroits où on a déjà des études. Et entre-temps, on peut continuer les études sur les autres sites calmement parce que le besoin en énergie, on
par
en
exemple,
aura
par exemple, Miaou peut produire combien de mégawatts? Chibashi aussi combien? Et si on associe, ça peut donner combien de mégawatts dans l'ensemble?
Miaou, on a quasiment trois sites à peu près qui présentent un bon potentiel. Et chaque site, on est à un minimum à peu près des 8,4 mégawatts. Par site là. Donc pour, si on combinait tout le potentiel de la rivière, on parle quasiment d'un 24 mégawatts, hein, 24-25 mégawatts sur la rivière Miao toute seule.
Ouais. Et si on associe Chibashi?
Chibashi, on parle d'un micro central. On est autour de 400 kilowatts là, à peu près.
Ouais. Donc si on associe tout ça, Kananga peut déjà être électrifié.
Absolument. Absolument.
Voilà. Et pourquoi on ne mettrait pas de l'argent dessus? Parce qu'il y a déjà des études finies et validées.
Ben, c'est aux autorités
de décider.
De décider et de voir et de venir vers nous pour demander ces études-là et voir où ça bloque pour les utiliser parce que ces études n'attendent que du financement.
Voilà. Et entre-temps, Mbombo, vous pouvez poursuivre les études
calmement,
sans pression, sans stress.
Effectivement, parce qu'il n'existe pas des études en ce moment sur ces sites-là.
Et sur Mbombo, vous pensez que ça peut encore vous prendre combien de temps pour terminer complètement
Je ne m'aventurerai pas à donner un délai, non. Ce qui est sûr, si nous avons tout le moyen, je pense en dedans de 3 mois, on aura tout fini.
Dans 3 mois, vous pouvez finir.
Oui, en 3 mois, on peut tout finir. À partir du moment où nous avons le moyen.
Voilà, donc vous poursuivez vos travaux au niveau des études, au niveau de Mbombo. On était d'ailleurs là-bas et Tati est même montée dans
le bateau.
avec les ingénieurs pour aller voir comment ils ont fait les prélèvements, etc.
Ouais.
Alors, mais cette chute-là, le potentiel est grand, disons.
Oui, ouais, le potentiel, il est très grand. C'est comme je disais tantôt, on peut produire jusqu'à 45 mégawatts. Je pense pas qu'on arrivera à 45, beaucoup plus à cause de toutes les répercussions au niveau écologique. Hein. Moi, je crois qu'on pourrait facilement produire un 20 mégawatts sur ces sites-là, aussitôt que les études nous diront quand les études seront finies, mais je suis confiant pour au moins 20 mégawatts.
Et avec, les études, vous étudiez, qu'est-ce que vous étudiez par, vous essayez d'analyser aussi le comportement de la rivière dans 5 ans, dans 10 ans, comment
oui.
la rivière peut se comporter.
Oui, bah, au fait, il y a, juste pour faire un petit résumé rapide, il y a ce qu'on appelle des études topographiques. C'est qu'on essaie d'avoir la forme du terrain, tout le terrain. Et après ça, on a des études hydrologiques, on a des études hydrauliques. Et dans la partie des études hydrologiques et hydrauliques, là, c'est là qu'on veut vraiment connaître le comportement de la rivière. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on a besoin des données quasiment même sur 25 ans. Parce que si on est capable de voir comment la rivière s'est comportée les 25 dernières années, ou tu sais, on a des données sur 25 ans, on est capable aussi de projeter ce qui va se passer, tu sais, dans les prochaines années. Tout ça pourquoi? Parce que c'est l'eau, au fait, qui fait fonctionner la centrale. Donc c'est un peu comme si tu démarrais ton auto mais sans aller regarder dans ton réservoir c'est quoi le carburant. Donc tu ne sais pas combien de kilomètres tu vas faire pour te rendre à ta destination. Donc c'est quelque chose de très important de comprendre le comportement de la rivière avant même de faire quoi que ce soit sur les sites.
Et surtout que la rivière Le Loup a plusieurs bras, on a vu, il y a plusieurs bras qui... D'accord, alors il y a Richard qui a posé aussi une question de savoir, mais pourquoi ne pas faire les études calmement au lieu de faire beaucoup de bruit dans les médias et après on se rend compte que les études n'ont pas, ne sont pas encore terminées.
Je crois que ça c'est peut-être un problème au niveau de la communication.
Les politiques ont leur façon de communiquer.
Voilà. Donc il faut vraiment faire la part de choses. Je vous ai donné l'exemple dans le cas des Miao et Chibashi. Personne n'était au courant qu'on faisait des études.
Des études
pourtant,
qui sont terminées,
voilà,
validées.
On a toutes les études faites et terminées en ces moments, faites avec, financées par Flo. Dans le cas de Mbombo, par exemple, moi je pense à un problème de communication. Oui, on peut toujours annoncer le début des études, mais il faut l'annoncer de la bonne façon et faire les choses de la bonne façon afin que les gens puissent vraiment comprendre à chaque étape. Moi je crois que c'est
un
exercice.
Faire le marketing politique.
C'est ça. Je crois que le responsable des projets doivent toujours apprendre à communiquer avec la population pour vraiment au moins montrer comment les choses vont se passer.
Bien, ingénieur Pierre Lobéa Mukindi, je rappelle que vous êtes directeur général de la firme PLM Ingénierie. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Pierre Diassinois était à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la coordination de cette émission, à la réalisation. Feza Bongonda Julie au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.